France Info.
Bonsoir à tous. L'américain Boeing ne sait plus quoi faire. Son avion vedette, le 737 Max, est toujours cloué au sol. Les compagnies aériennes ne peuvent pas le faire voler. Il y a trop d'incertitudes après les deux accidents qui ont fait près de 350 morts. Je vous rappelle que le dernier, c'était celui de l'Ethiopian Airlines au mois de mars. Bonsoir Alexandre de Juniac.
Bonsoir.
Invité ce soir de l'Interview Éco, directeur général de l'Association internationale du transport aérien. Vous représentez la plupart des compagnies du monde. Est-ce que vous faites encore confiance, vous, les compagnies, à Boeing ?
Oh, il y a deux très grands constructeurs aéronautiques dans le monde qui ont produit depuis maintenant des dizaines d'années des avions pour le transport aérien. C'est l'industrie de transport longue distance la plus fiable au monde, de très très loin. Et on s'améliore tous les ans en plus. Alors bien sûr, il y a parfois des tragédies, des accidents.
Est-ce qu'il y a un problème Boeing aujourd'hui?
Non, ce que je crois, c'est qu'il y a un problème dans ce modèle du 737, dans l'introduction d'un nouveau logiciel qui compense l'avion quand il connaît notamment une défectuosité dans ses sondes d'angle d'attaque. Pardon d'être un peu technique. Ce logiciel, sa mise en œuvre, son entrée en service, sa certification, ont posé des difficultés. Mais c'est vrai pour toutes les nouvelles technologies. Et c'est pour ça que le secteur a des procédures extrêmement strictes. Et donc, ce qu'il faut que l'on fasse maintenant, c'est que l'ensemble des régulateurs se mettent d'accord sur un calendrier de remise en service et des conditions analogues de remise en service. Pour nous, les compagnies aériennes, qui faisons confiance aux constructeurs, qui faisons confiance aux régulateurs, cette confiance, elle serait entamée si chaque régulateur faisait ce qu'il voulait dans son coin.
Disons les choses plus précisément, si les Américains, patrie de Boeing, disent feu vert pour le redécollage de cet appareil, et que les autres, les Européens par exemple, ou d'autres en Asie, ne suivent pas les Américains, que ferez-vous?
D'abord, on est obligé de suivre
qu'est-ce qui se passerait alors?
Non, mais ce que le régulateur nous impose, on est obligé de suivre. Donc, dans les pays ou les zones géographiques dans lesquelles le régulateur aurait autorisé l'avion à être mis en service, on pourrait voler. Mais les compagnies dépendant des zones ou des pays dans lesquels le régulateur l'aurait interdit, ils ne pourraient pas voler. Donc, on suivrait ce que nous dit le régulateur. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'une des grandes forces du système, c'est d'avoir un système mondial aligné entre les différents régulateurs sur les conditions de mise en service.
Mais vous entendez la petite musique de méfiance des régulateurs entre eux en ce moment?
Oui, on entend très
bien. Ils ne veulent pas courir le risque d'un nouvel accident.
Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas lieu à ce qu'il y ait méfiance entre les régulateurs, mais concordance, pourvu que les régulateurs se mettent ensemble et définissent ensemble le bon calendrier et les bonnes conditions. Et ça va arriver. Parce que tout le système a fonctionné comme ça, et magnifiquement depuis 50 ans. En dépit des tragédies absolument dramatiques qu'on a eues, nous sommes, encore une fois, je le répète, le système de transport longue distance le plus sûr au monde, et de très très loin.
C'est
sans comparaison.
Est-ce que ce 737 Max revolera un jour, Alexandre de Juniac?
Je pense que oui.
Quand?
Alors ça, c'est justement la question que les régulateurs doivent trancher. Je comprends que maintenant la période qui est visée, c'est dans quelques mois, mais je ne suis pas capable. C'est à eux qu'il faut poser la question de vous donner la bonne date.
Nous, ce que nous disons, peut-être d'ici le mois d'octobre,
pour tout le monde,
Boeing, possible.
Même date, même condition. C'est ça qui est important pour nous.
Deuxième sujet ce soir, et il concerne les vacanciers. Certains nous écoutent peut-être ce soir. C'est le rejet de l'avion pour protéger le climat. En Europe, de plus en plus de gens refusent de prendre l'avion, ou disent qu'ils refusent de prendre l'avion, car ils ne veulent pas polluer davantage l'atmosphère. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous vendez moins de billets qu'avant?
Alors, c'est un phénomène dont on est très conscient, qui est né plutôt en Europe du Nord, en Suède. Et ce qu'on constate, c'est que, pour le moment, beaucoup de gens n'ont pas renoncé à prendre l'avion, mais il y a clairement un mouvement d'opinion des passagers, des citoyens, pour dire attention, est-ce que l'industrie aérienne fait tout ce qu'il faut pour lutter contre le réchauffement climatique, qui est un de nos sujets d'environnement. L'autre sujet, c'est le bruit. Et nous disons, non seulement on fait ce qu'il faut, mais ça fait 10 ans qu'on fait ce qu'il faut. Ça fait 10 ans que cette industrie a pris des engagements mondiaux. Ces engagements, ils sont au nombre de 3. On a dit d'abord, on va diminuer les émissions par passager, les émissions de CO2. Et nous sommes meilleurs que l'engagement que nous avons pris, et ça jusqu'en 2020. À partir de 2020, toute la croissance du transport aérien sera neutre en carbone. C'est-à-dire nous n'émettrons pas ou nous compenserons les émissions carbone supplémentaires qui seront générées
comment,
par la croissance.
Comment ?
Par exemple, avec un système qu'on appelle Corsia, qui est un marché de droits de carbone, de quotas carbone que nous achetons. Et puis, troisième engagement, c'est le plus important en fait. En 2050, on a dit que nous réduirions nos émissions de CO2 à la moitié du niveau de 2005.
Est-ce que vous serez techniquement capable de le faire? J'entends l'engagement, Alexandre de
oui,
Gignac, mais
ce que je voulais dire, c'est que nous sommes la seule industrie à avoir fait ça. Nous sommes à avoir pris les engagements de ce niveau-là, avec cette ambition-là, c'est quand même très très important. Et troisièmement, avoir convaincu tous les gouvernements, 193 États, d'adopter un système mondial de compensation carbone.
Est-ce que techniquement,
à notre demande.
Est-ce que techniquement vous serez prêt et est-ce que ça suffira? Je vais rappeler juste un chiffre, une prévision, elle vient de chez vous d'ailleurs. 8 milliards 200 millions de passagers en 2037.
C'est ça.
Deux fois plus qu'aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que la planète peut supporter autant de passagers?
D'abord, je pense que la planète peut le supporter pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une formidable demande. Je vous rappelle que 50% des nouveaux passagers dont vous parlez viennent d'Inde et de Chine. Alors, on va pas expliquer aux Indiens, aux Chinois que nous, on a beaucoup volé, c'était très sympa, mais qu'on arrête, mais qu'eux, ils n'auront jamais le droit de voler. Ça, c'est pas possible.
Si le climat continue à se dégrader.
Et alors, la deuxième raison, c'est que les engagements qu'on a pris, c'est justement de diminuer notre empreinte carbone. De la diminuer. Vous m'entendez? En dépit de cette fantastique croissance du nombre de passagers, donc du nombre d'avions, nous allons réduire l'empreinte carbone du transport aérien.
Et
nous pensons que techniquement, nous serons prêts.
Donc, vous serez prêts techniquement, c'est ce que vous nous dites aussi. Est-ce que ça suffira? Encore une fois, 8 milliards de passagers, c'est gigantesque. Et donc, c'est de la pollution gigantesque.
Oui, mais on le tient. Dans notre engagement à réduire notre empreinte carbone, nous prenons en compte ces passagers supplémentaires. Ça inclut ça.
Toute dernière question.
C'est en cela que c'est ambitieux, je vous rappelle.
Elle est d'actualité aussi. La taxation du kérosène, idée avancée par des élus, notamment en France. Qu'en pensez-vous?
Nous sommes peu favorables. Mais pour une raison qui est simple. D'abord, à la fin, c'est le passage qui paiera. La deuxième raison qui est importante, c'est que les secteurs industriels qui ont basculé dans des industries plus propres, ça ne s'est jamais fait à coup de taxation. Prenez l'automobile, ils développent l'électrique. Ce n'est pas parce qu'on a mis une taxe sur le fuel.
Alexandre de Gignac, merci, le directeur général de l'Association internationale du transport aérien, invité ce soir de l'Interview Écho.